Donc, ce qui me questionne dans l'exemple de Bordeaux, c'est que ce type de tâche, il n'y aura pas de phase d'entraînement, de travail de la technique en elle-même, parce que finalement, il n'a lieu qu'une fois. C'est-à-dire, quand j'ai trouvé pour deux points, ben, ça y est, c'est clos cette histoire-là. Quand je trouvais pour trois points, c'est une histoire qui est close. C'est pas comme l'exemple, par exemple, des équations du second degré que nous avons pris hier. Dans le type de tâche, il y a générique, il y a quelque chose qui ne s'épuise pas. Voilà, et ça me pose question, je ressens un besoin de clarification sur cette notion de type de tâche. Et la deuxième question qui me vient aussi dans ce besoin de clarification, c'est que ce type de tâche en tant que tel n'est pas, me semble-t-il, à la lecture du programme, un type de tâche dont on vise l'acquisition par les élèves. Par contre, sa mise en œuvre permet le travail de technique qui, elles, sont visées. Voilà. Et donc, je ressens un besoin de clarification par rapport à ça.
Oui. Bon, effectivement, alors c'est vrai, hein, le type de tâche en tant que tel, évidemment, ces analyses en termes d'organisation mathématique, etc., on ne va pas déclarer aux élèves, aujourd'hui on s'engage dans le type de tâche. Bon, hein, c'est pas de cette manière-là que l'on va procéder. Alors, effectivement, il y a un petit problème, si tu veux, au niveau du travail des techniques, c'est vrai. Il peut y avoir des techniques uniques pour une technique unique pour un type de tâche donnée.
Non, je ris parce qu'effectivement, il y a entre les différentes équipes en paires, il y a un peu des débats parfois vigoureux. Et il est vrai que l'équipe de Bordeaux se sert essentiellement de la théorie des situations de Guy Brousseau. D'autres équipes qui se servent davantage de l'analyse anthropologique, en particulier Poitiers, sont pas tout à fait en accord avec ce que fait Bordeaux. Alors, ça m'y fait penser parce que, oui, ils sont pas en accord pour des raisons, par exemple, ici, quelles sont les grandes questions génératrices d'études qui conduisent effectivement au cercle circonscrit à un triangle? Bah, pour les Poitevins, ça serait une question de construction géométrique. Donc le type de tâche, c'est, est-ce que je peux construire un cercle qui passe par les sommets d'un triangle? Et à ce moment-là, à chaque fois que j'aurai besoin de faire ça, j'ai besoin d'une technologie pour armer ma technique qui consiste à tracer les médiatrices, par exemple, à tracer deux médiatrices. Et à ce moment-là, on voit bien le type de tâche au sens où je peux m'entraîner ensuite à le faire, dans des circonstances variées. Alors que là, avec ce que présente Bordeaux, on a un peu l'impression que c'est la démonstration de la technologie qui est le type de tâche. Bon, ben voilà, ça c'est un peu... moi, je suis bien content de pouvoir dire des choses comme ça, parce qu'en pair, c'est pas une ligne, en quelque sorte, de gens qui se rencontrent et qui sont toujours en accord. Hein. On a beaucoup de discussions, et des discussions parfois très vigoureuses.
Moi, ça me posait question, parce que dans la formation de PSCE, quand on utilise cet outil-là, et bien, pour les aider à discerner les types de tâches, on leur demande de chercher quels sont les apprentissages visés, quelles sont les tâches mathématiques dont on veut rendre les élèves capables de les effectuer. Or, si on ne prend pas cette question-là, on n'aura pas le type de tâche qui a été évoqué.
Tu vas le retrouver dans les techniques quand même. Quand on regarde la liste que j'ai faite, qui est assez longue des techniques, hein, et volontairement. En fait... qu'est-ce que c'est qu'une technique? Elle est faite, une technique, de l'accomplissement de sous-tâches. Et on peut faire une descente infinie comme ça. Parce que, alors, la difficulté de cette analyse anthropologique, me semble-t-il, est la suivante. C'est qu'il faut toujours se replacer au point de vue de ce que Chevalard appelle l'institution dans laquelle se déroule l'activité. Donc, ici, il faut essayer de se replacer au point de vue d'une activité qui se déroule dans une classe de 5e avec, d'une part, les choses qui vont de soi pour les élèves de 5e et celles qui sont d'ordre problématique. À partir de là, on peut repérer des types de tâches. Par exemple, construire une médiatrice, par exemple, n'est plus en principe, une tâche problématique au niveau de la classe de 5e. Les élèves, bon, en règle générale, ils savent la construire avec la règle et le compas. Bien. Donc, dans la technique, en quelque sorte, je vais même pas l'évoquer, ça. C'est quelque chose qui est un allant de soi, au même titre que savoir tracer une droite avec la règle sans que ça fasse des bosses ou je sais pas trop quoi, parce que les élèves de l'école primaire parfois mettent le doigt sur le bord de la règle et donc, etc. C'est des choses qui vont de soi. Donc, relativement à l'institution classe de 5e, quelles sont les tâches dans lesquelles les élèves peuvent être engagés? Quelles sont les sous-tâches par lesquelles je les fais passer, dont certaines sont problématiques et pour lesquelles ils vont apprendre, et quelles sont celles qui sont routinières et c'est même plus la peine de les questionner. Moi, je trouve cet outil relativement pertinent si on arrive effectivement à se replacer au point de vue d'un élève de 5e, ce qui suppose qu'on ait fait une analyse, d'abord une certaine expérience de l'enseignement, une analyse assez poussée de ce qui est attendu contractuellement au niveau où on se place par l'institution scolaire, les connaissances antérieures que les élèves possèdent, etc. Bon, voilà, je ne peux pas répondre davantage à ta question. Mais oui, moi je suis assez d'accord avec toi là-dessus, parce que justement, c'était une grande discussion, je me rappelle, étant à Poitiers, je crois que c'était avec Robert et Annie Noirfalise. Et oui, c'était à Poitiers. Et donc, on avait eu une grande discussion là-dessus avec nos collègues de Poitiers, avec Dominique Gault, et qui disait cette activité-là, elle est close et elle est mal fichue dans la question qui est posée. Et donc, on en avait débattu. Et moi, j'avais dit, évidemment, la question, le type de tâche qui est derrière, c'est les cercles qui passent par N points et qu'on va décliner. Et il me disait, ben oui, alors là, on a un véritable parcours d'études et de recherche, puisqu'on va pouvoir le décliner sur les quadrilatères inscriptibles au niveau du collège, les polygones réguliers, la cocyclicité, etc. Donc voilà un type de tâche qu'on va pouvoir reprendre et qu'on va traiter, évidemment, au fur et à mesure que l'on monte dans les niveaux scolaires. Voilà. Bon. C'est clarifié, voilà. Moi, je crois que oui, il faut la reprendre, la retravailler, etc. Mais c'est déjà quand même pas mal. On prétend pas détenir la vérité. Ce que je disais hier, c'était non pas prescrire, mais montrer que bon, d'autres choses sont possibles. Voilà. Et puis, on améliorera.
Oui, une remarque, par exemple, Poitiers se sert effectivement des problèmes de construction géométrique, à savoir des problèmes particuliers qui sont des problèmes d'inscription de cercle dans une figure ou de circonscription d'un cercle à une figure donnée, et avec des problèmes spécifiques liés à ce type de problème, il traite l'ensemble de la géométrie plane de secondes en introduisant en plus les triangles isométriques et semblables. En particulier, comme par exemple un exemple, c'est construire ce que les Japonais appellent des songaku, je crois.
Oui, je crois.
C'est-à-dire que vous prenez un triangle quelconque et dedans vous insérez des cercles, des carrés, etc. La question à ce moment-là, c'est comment reproduire ce type de figure. C'est des problèmes qui sont générateurs d'études et qui mobilise effectivement beaucoup de propriétés géométriques pour leur résolution.
Voilà, avec une petite remarque, c'est que les songaku, c'est ça ? Songaku, en fait, c'est des dons faits aux dieux, aux ancêtres, et c'est donc des constructions géométriques assez extraordinaires, c'est-à-dire inscrire un nombre de cercles maximum dans un triangle, par exemple.
À Poitiers, bon, on conserve le patrimoine japonais.
Voilà, oui, bon. Je sais pas, il n'y a pourtant pas des arts premiers, le musée des arts premiers qui s'est installé là-bas. Alors évidemment, les collègues de Bordeaux disent que c'est complètement fictif, quoi. Enfin, les élèves, est-ce qu'ils vont s'intéresser à la culture japonaise et au sangaku, etc. Bien. Donc, bien sûr, il y a toujours un problème au départ de motivation de l'affaire. Hein. Bon, il faut que les élèves acceptent de s'intéresser à ce genre de figure que l'on retrouve, par exemple, dans le... Bon, je ne l'ai pas amené, mais il y a un PowerPoint de Poitiers où ils prennent la cathédrale, alors je ne sais plus si c'est celle de Rouen ou de Beauvais, et dans laquelle on voit effectivement dans les rosaces des tas de figures, des cercles inscrits ou l'inverse, ou circonscrits, etc. Et donc, on peut faire des démarrages comme ça avec les élèves. Bon, on voit ce que je disais hier dans le couloir, la géométrie, comment ils appellent ça, technique, je crois, ou bon, quelque chose. Bon, bien sûr, il y a des applications. Alors, on revient à la question la société et la géométrie, hein, et les mathématiques d'hier. Trouver des situations qui soient effectivement motivantes pour l'étude de certaines parties de la géométrie. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des questions de l'ordre de l'éthique qui apparaissent, mais il n'y en a pas, apparemment. Oui, de l'éthique, parce que, bien sûr, on envoie les élèves sur une fausse piste, à un moment donné, bien sûr, hein, sur le petit triangle des médiatrices. Alors, est-ce qu'on a le droit de... d'envoyer les élèves sur essayer d'agrandir le petit triangle, etc. Voilà. Oui.
À ce propos, justement, l'IREM des Basses Normandie, nous avons fait deux journées de pré-rentrée, comme on fait tous les ans. Et moi, j'ai présenté un travail sur une droite parallèle à une droite donnée, passant par un point extérieur. Donc, j'ai présenté un travail disant que, justement, cette notion, il était bien de la travailler sur papier avec les instruments, certains interdits ou pas, équerre et règle ou compas et règle, avec une feuille dans laquelle on pouvait faire des pliages, et les plis, c'est la droite, donc avec deux pliages successifs, avec les droites perpendiculaires et même troisième et coplanaire, ça donne des parallèles. Après, c'était par des logiciels de géométrie dynamique, en particulier Cabri, mais on a parlé de GeoGebra aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de Cabri, on commence à dire, on va interdire certaines... On va imposer certaines fonctions de Cabri. On va résoudre des problèmes simplement en se servant de la fonction milieu de deux points et tracer les droites, par exemple, et tracer d'un point. Alors, ça a été expérimenté, les élèves, ils proposent la théorème des droites des milieux, donc ils se servent de droites des milieux, avec la droite, je ne sais pas si vous voyez dans votre tête, une droite donnée, et puis après, ils construisent un triangle pour tracer une parallèle avec le théorème des droites des milieux, mais qui ne passe pas par les points M donnés. Donc il y a des solutions des élèves qui proposent par des approximations successives, les milieux, des milieux, des milieux, des milieux, donc à chaque fois la droite se rapproche de plus en plus du point M, mais il est évident qu'il ne va jamais arriver à M. Bon, c'est intéressant. Et puis après, il y a des propositions dans lesquelles les élèves construisent un triangle auxiliaire ou une droite auxiliaire qui passe par, qui coupe la droite donnée, qui passe par les points M. Et ils se servent d'un point des théorèmes des droites des milieux, mais avec un point A qu'ils bougent, ils les prennent avec la souris, ils les bougent jusqu'à faire coïncider ces milieux-là avec les points donnés M. Et à ce moment-là, la droite qui garde un invariant qui est toujours parallèle à la droite donnée, elle va bouger aussi, hein, la configuration des bases bouge, et la droite parallèle continue à être parallèle, à un moment donné, elle passe par les points M.
Bon, juste une petite remarque, quand tu disais les élèves de 4e, hein, c'est quand même bien que la géométrie n'est pas vue comme une modélisation du monde, me semble-t-il, du point de vue des élèves, ce que tu nous dis, c'est-à-dire que cette dialectique entre le monde sensible et le savoir mathématique qui décrit, qui est un modèle du monde sensible, elle n'est pas forcément vécue par les élèves, quoi. Bon, l'intérêt de cette activité, me semble-t-il, c'est qu'elle fait la distinction entre les deux. Il y a des activités, il y a eu toute une littérature sur la question avec le fameux triangle aplati. Il y a certaines années, quoi, hein, dans les années 90, où c'était la grande mode, ça. Oui, moi je crois que dans toute activité mathématique dans la classe, il y a cette part implicite, quelle qu'elle soit. C'est ça le problème. Donc, voilà. Donc là, on explicite l'implicite, on peut dire. Mais cet implicite-là, il est permanent. Permanent. Enfin, il suffit de voir, de faire des analyses de séances de classe ordinaires, et là. Bon, c'est sûr. Le fait qu'on l'explicite, c'est qu'on va en tenir compte, on va décider d'en tenir compte ou pas.